Alors, chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes, c'est la chronique Jouons collectif de Vincent Calame, qui est par ailleurs bénévole à l'April. Alors, c'est une chronique en deux étapes, parce que la semaine dernière, tu avais commencé ta chronique consacrée au thème de la migration vers le logiciel libre, donc de la FPH, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, dont les locaux sont dans le 11e arrondissement de Paris. Tu avais intitulé ça « La quête du libre », une histoire commencée il y a plus de 15 ans. Donc, bref résumé de l'épisode précédent, la première partie était consacrée à la migration des logiciels bureautiques sous Microsoft Windows, avec notamment le courrier, le navigateur web et la bureautique. Et je vais reposer la question sur laquelle s'était donc achevée notre première partie. Qu'en est-il de la migration vers un système d'exploitation libre ?
Ah oui, bien sûr, l'utilisation de logiciels libres sous Windows pouvait être une première étape dans notre quête. On ne devait pas se reposer sur nos lauriers et puis il fallait continuer de l'avant. Et le passage à une distribution libre, c'était l'étape suivante. Mais là, on a deux nouveaux obstacles qui sont dressés sur notre route. Alors le premier obstacle, il est bien connu de tous ceux qui ont fait de l'installation sur du matériel, c'est les problèmes d'incompatibilité. Obstacle qu'il faut rappeler est dû au fait que les constructeurs ne fournissent pas de pilotes libres, ne testent pas pour les distributions libres. Donc on se retrouve souvent avec des problèmes de carte son qui ne marche pas ou de choses comme ça. Donc sur cet obstacle, moi j'y reviendrai par la suite pour dire comment on l'a affronté. Mais le deuxième obstacle qui s'est dressé sur notre route et qui nous a retardé pour plusieurs années, c'était le logiciel Skype.
Alors Skype, donc le logiciel de téléphonie, mais c'est ce logiciel aujourd'hui il est dépassé et puis il y a des alternatives libres qui existent, non ?
Oui, complètement. Maintenant la situation est différente, mais à l'époque, je parle du milieu des années 2000, Skype ça a vraiment été une vraie révolution. Ça a rendu accessible la communication audio par ordinateur, donc à très faible coût, parce que Skype était gratuit. Et comme pour des structures comme la FPH qui travaille beaucoup à l'international, le coût des télécommunications était un poste budgétaire important. Et donc là, ça a vraiment permis de faciliter la communication à peu de frais. Et d'ailleurs, casques, écouteurs ont fleuri dans les bureaux très rapidement. Tout le monde faisait des conférences Skype. Mais du coup, c'était difficilement envisageable d'installer un système qui n'aurait pas Skype dessus. Là, je n'aurais pas pu passer ça à la fondation. Alors, heureusement, on va dire pour notre quête, Skype a sorti par la suite une version pour GNU Linux, mais qui n'était pas libre, mais quand même une version installable. Elle a mis un peu de temps à être opérationnelle. Souvent, moi, j'ai eu des problèmes avec les cartes son. Et c'est vers la fin des années 2000 que le logiciel était suffisamment intégré dans les dépôts non libres des distributions. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment qu'à la fin des années 2000 que nous avons levé cet obstacle majeur de Skype.
Donc, à la fin des années 2000, la possibilité d'installer un environnement libre, certes, en ajoutant le logiciel privateur Skype, s'est posée. Et donc, on revient, je suppose, à ton premier obstacle que tu évoquais, celui de la compatibilité matérielle.
Voilà. Donc, celui-là, on l'a résolu tout simplement en y mettant le budget. Nous avons renouvelé tous les postes d'un coup. C'est une dizaine de postes, c'est pas non plus des budgets faramineux. Et en faisant appel à un prestataire qui nous garantissait la compatibilité du matériel, qui avait déjà testé ça sur des distributions libres. Alors, ce renouvellement, d'ailleurs, a eu deux avantages. D'une part, on a disposé d'un parc homogène. Ça facilite les interventions. S'il y en a un qui marche plus, on peut changer les pièces d'un appareil à un autre. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que nous avons lié, en fait, le basculement à une distribution GNU Linux avec l'arrivée de ce nouveau matériel. Matériel qui était évidemment plus performant et surtout d'ailleurs beaucoup plus silencieux. Et là, donc, il y a eu un vrai gain de travail qui a été associé à ce nouveau système d'exploitation. Alors, comme je dis, c'est un peu sournois parce que je pense qu'avec n'importe quel système, on aurait eu un confort.
Avec mais là, nouveau matériel avons... plus performant, le confort a été augmenté quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, mais là, on l'a associé avec le changement de système. Et donc, ça s'est vraiment passé très facilement. Ce qui nous a également aidé au début des années 2010, ça a été la généralisation, on va dire, des approches client-serveur, c'est-à-dire d'avoir plutôt de grosses machines et des postes qui interrogent ces machines. Alors, l'exemple, c'est l'impression. Nous sommes dotés de deux grosses imprimantes qui étaient libres puisqu'elles utilisaient le langage d'impression qui s'appelle PostScript, qui nous a permis de remplacer toutes les petites imprimantes qui, elles, nous, typiquement, posaient problème de compatibilité de matériel. Et même chose pour la question des logiciels de comptabilité. On était obligé de se doter d'un serveur sous Windows avec ces logiciels privateurs pour lesquels on n'avait pas d'alternative. Mais du coup, on n'avait plus à installer ces logiciels sur les postes du comptable. Et ça, cette contrainte levée, ça nous a facilité la migration du poste du comptable, justement.
Alors donc, le problème du comptable, entre guillemets, du poste du comptable réglé, donc tous les postes ensuite ont basculé sur un système libre, et en l'occurrence un système GNU Linux.
Alors oui, alors donc c'est fait en deux vagues. En 2010, on l'a fait uniquement pour les personnes utilisant uniquement les logiciels bureautiques et Skype. Et ensuite, en fin 2016, tous les postes fixes ont été faits. Et d'ailleurs, bon, en 2016, comme les ordinateurs de 2010 étaient amortis, on a encore acheté une série d'ordinateurs encore plus petits et plus silencieux. Et là, à cette occasion, nous avons installé comme distribution GNU Linux Ubuntu. Alors, c'est vrai que moi, pour des raisons personnelles et affectives, je suis attaché à une distribution Magega, mais qui est moins répandue. Et comme il est déjà difficile d'être minoritaire, alors si en plus on est minoritaire parmi les minoritaires, ça complique un peu. Par exemple, quand on parle des logiciels privateurs présents sous GNU Linux, ils vont faire l'effort d'avoir un paquet pour Ubuntu souvent, mais pas pour les autres distributions. Donc là, c'était une manière pratique de prendre la distribution GNU Linux la plus répandue à ce moment-là. Alors j'ai parlé des postes fixes parce que là il reste toujours un point noir. Ce sont les ordinateurs portables. Même chose, la compatibilité du matériel est plus dure à assurer, même si on voit apparaître des prestataires qui proposent également des portables avec des distributions Linux, GNU Linux installées. Mais c'est vrai que le portable, on est toujours lié aux chaînes de production. Il y avait le premier prestataire qui avait fait nos postes fixes, qui disait faire un poste fixe, tout le monde peut le faire avec un tournevis et puis en prenant les composants. Les portables, c'est beaucoup plus des boîtes noires et c'est plus complexe. L'autre problème du portable, c'est comme juste par définition ça se porte, les gens vont partir avec et là je vais pas être à proximité pour pouvoir les aider. S'ils sont chez un partenaire, ils doivent installer l'imprimante chez le partenaire, ça peut poser problème. Donc là c'est plus difficile, mais c'est plus progressif et c'est plus sur la base du volontariat. Souvent les gens, quand ils ont un poste fixe sous GNU Linux et puis qu'ils ont un portable juste pour les déplacements, là c'est plus facile pour eux d'utiliser les deux.
D'accord. Et quand tu parles donc du choix d'Ubuntu pour permettre l'ajout de logiciels privateurs plus facilement, est-ce que c'est encore Skype ou c'est d'autres logiciels privateurs qui sont installés?
Alors, on nous arrive d'avoir des demandes, toujours d'ailleurs dans les questions de vidéoconférence. Je vois là, en ce moment, la mode, c'est Zoom. Et donc, effectivement, parfois, quand c'est un partenaire qui dit « on va faire une visioconférence Zoom », comme c'est le partenaire qui l'organise, c'est toujours compliqué de dire qu'on n'en veut pas. Mais là, Zoom va proposer un paquet. On a eu une même question qui s'est posée avec un logiciel qui est TeamViewer, qui est un logiciel de prise en main à distance. Et même chose, il y avait les paquets pour Ubuntu, mais pas sans pour Ubuntu, mais c'est vrai que c'était eux s'installaient vraiment sans problème. Enfin, j'ai pas testé dans les autres configurations.
D'accord. Donc en fait, la quête, elle est Elle n'est jamais achevée, finalement.
Non, elle ne le sera jamais. Hein. De toute façon, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps d'avancer. Je crois que ma conclusion personnelle, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a d'abord le temps aux alternatives libres de se développer. De toute façon, les moyens sont plus limités dans le monde du logiciel libre. Donc, c'est normal que ce soit pas, certaines choses ne soient pas opérationnelles immédiatement. Ensuite, il y a le temps de le voir se diffuser parmi les acteurs. Bon, je vois quand même une nette différence avec les partenaires que nous avons. Maintenant, leur parler de logiciel libre, on n'est plus, des Mohicans. Enfin, ils connaissent ce que c'est. Je vois débarquer des gens qui ont déjà du logiciel libre sur leur poste. Et puis, le temps d'appropriation et de s'approprier les usages du logiciel libre.
D'accord, enquête n'est jamais achevée, donc tu as encore du travail à faire et l'espoir est évidemment présent. Tu parlais tout à l'heure des portables, je vais juste citer en tout cas ou indiquer qu'il y a de plus en plus de structures qui proposent des portables en reconditionnement et souvent avec du logiciel libre préinstallé, donc vous trouvez ça sur internet dans toutes les régions, et donc ce qui permet de récupérer des matériels anciens mais qui fonctionnent toujours. Et concernant plus globalement la question des distributions GNU Linux, donc des distributions libres, je renvoie les personnes qui écoutent l'émission au podcast de l'émission du 22 janvier 2019. Nous avions notamment quelqu'un d'Ubuntu, une personne de Debian et une personne de Magia, qui est ton système libre préféré. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Vincent ?
Oui, juste dire qu'on n'est jamais quand même à l'abri d'une régression. C'est-à-dire qu'on a toujours du logiciel privateur quelque part dans nos machines. Toujours, effectivement, au niveau du matériel. Parfois, on trouve du matériel compatible, puis un an après, il est plus disponible. On l'a vu aussi, nous, avec les imprimantes, où tout d'un coup, on a eu de très belles imprimantes nouvelles, mais il a fallu installer un logiciel spécifique de Xerox, en l'occurrence. Donc, il faut être toujours vigilant et rien, malheureusement, n'est jamais acquis.
D'accord. Eh bien, écoute, merci Vincent. Je te souhaite une belle fin de journée.